Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on se retrouve transporté dans les visions de l'apôtre Jean. Donc l'apôtre Jean qui vivait au 1er siècle, Dieu lui a donné toutes sortes de visions du futur et d'autres choses. Et au premier chapitre, il a d'abord la vision du Fils de Dieu dans sa gloire. Il le voit, vous lisez ce premier chapitre, c'est incroyable. Et notre Seigneur va lui parler et va lui donner des messages pour des églises locales. Donc, c'est les deux premiers, enfin, chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse. Et donc, il va y avoir sept messages, sept micro-lettres adressées à ces églises qui existaient au 1er siècle. Donc, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et pour chacune de ces églises, le Seigneur a un message qui est personnel. C'est un reproche et ou un encouragement. Hein, en même temps, on voit, il y a les deux. Et on peut lire plusieurs niveaux, avoir plusieurs niveaux de lecture en fait de ces lettres. D'abord, il y a une lecture littérale et on va dire de surface. Hein, c'est l'interprétation qui colle à ces lettres qui étaient adressées à des églises locales du 1er siècle. C'est-à-dire que, vraiment, le Seigneur voulait parler à ces chrétiens, ces églises, et dire, ben voilà ce que j'ai à te dire, voilà ce que j'ai à te dire pour chacune de ces villes. Ensuite, il y a une lecture historique. On a découvert que ces sept églises correspondaient à des périodes de temps dans l'histoire. Ben, la première église, l'église d'Éphèse, elle correspond à l'église du 1er siècle. Et puis, l'église de Smyrne, elle correspond à la suivante, hein, l'église de la persécution. Et puis on avance et finalement on a toutes les églises sur 2000 ans d'histoire. Mais ce matin, j'aimerais qu'on fasse une application de ces lettres pour nous, chrétiens, du 21e siècle. Parce que si Jésus adresse un message à des églises locales et à des chrétiens qui vivaient à l'époque, eh bien on peut aussi en tirer une application pour nous-mêmes. Le Seigneur peut nous dire chacun quelque chose. Et donc le titre de mon message, c'est « Lettre aux sept chrétiens ». Voilà. Dieu s'adresse à sept chrétiens, on pourrait dire. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur ? Quels chrétiens sommes-nous ? On va voir trois lettres ce matin et puis on verra les autres la semaine prochaine. Donc il y a d'abord le chrétien d'Éphèse. Êtes-vous un chrétien d'Éphèse ? Alors, qu'est-ce qui caractérise un chrétien d'Éphèse ? Regardez, on va lire ensemble Apocalypse, chapitre 2, et versets 1 à 7. Apocalypse 2, et versets 1 à 7. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette lettre ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Au verset 2, il dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. » Ça commence bien. Et peut-être que Dieu nous connaît, il sait exactement qui on est, et il voit parfaitement nos œuvres, notre travail, notre persévérance. Et c'est très positif. Dieu sait si nous sommes fidèles, volontaires, serviables, il le sait. Ensuite, il dit « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » C'est très bien. Il est intègre de cœur, ce chrétien. Il déteste le mal. Il veut la justice, il veut les bonnes choses. Et c'est aussi important d'avoir cette bonne attitude. Verset 3, on lit « Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert pour mon nom, que tu ne t'es point lassé. » c'est la deuxième fois qu'il emploie le mot persévérance. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans le caractère de ce chrétien. Il est persévérant, c'est très bien. En plus, il accepte de souffrir pour le nom de Jésus sans se lasser. Encore une qualité, on peut le souligner, c'est remarquable. Et c'est vrai que parfois, on est rejeté à cause de notre foi, à cause de Jésus-Christ, parce qu'on aime le Seigneur. On nous rejette, on nous fait des affronts, on nous méprise. Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et on peut dire, mais tout allait bien au commencement de cette lettre pour cette église et dans notre image ici pour ce chrétien. Hein, tout allait bien. Vraiment plein de qualités, des œuvres, du travail, de la persévérance, de la souffrance pour Jésus, mais... Et là, on comprend qu'on peut servir le Seigneur dans toutes sortes de choses, et pourtant, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ce chrétien, il a perdu quelque chose en chemin. Et au regard de toutes ces qualités, on peut se dire, bon, c'est une petite chose quand même, quand on regarde de la persévérance, du travail, du courage, du zèle, de l'intégrité, on se dit, mais c'est une petite chose. Et ce n'est pas une petite chose pour le Seigneur. Chrétien d'Éphèse n'a pas perdu sa persévérance, il n'a pas perdu son courage, il n'a pas perdu sa droiture, mais pourtant, Dieu lui dit, tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur ne lui dit pas, c'est dommage que tu n'aies plus ton premier amour. Non. Il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est fort quand même, hein? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et c'est un reproche. Le Seigneur l'a contre lui. Quand vous revenez à votre premier amour, hein, c'est l'amour qui naît dans notre cœur quand on rencontre Jésus. Parce que c'est ça, c'est une rencontre. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais, il ne suffit pas simplement de croire, il faut recevoir. Mais quand on reçoit le Seigneur Jésus, ben c'est une rencontre. Voilà, on ne le connaissait pas, il était lointain, et d'un seul coup, ça y est, on a une relation avec lui, on le voit nous parler dans les Écritures, on le voit répondre à nos prières, c'est un feu d'artifice dans le cœur. Trouver Jésus-Christ, hein, et là, il y a un amour hein, qui... Voilà, qui explose dans notre cœur pour le Seigneur. On était aveugles et maintenant nos yeux s'ouvrent. Jésus était une personne lointaine et maintenant il est là. Il est là, je lui parle et les autres ne le voient pas. Et moi je le vois et je le vois avec les yeux du cœur et j'ai une relation avec lui. Il devient proche, réel, sensible. Tout prend du sens. Il y a un amour qui naît dans le cœur, forcément. Et on peut dire, on tombe amoureux d'une certaine manière du Seigneur, qu'on soit homme ou femme. Hein, on tombe amoureux du Seigneur parce qu'il prend toute notre vie, il remplit tout notre cœur. Ça devient la personne la plus importante, même devant notre famille dans la chair. On tombe amoureux du Seigneur. Et là, on a des ailes. Pourquoi ? Parce qu'on comprend, on a échappé à la perdition et maintenant... On a l'assurance de la vie éternelle. Et on est plein de reconnaissance pour le Seigneur. Et notre cœur est entraîné par cet amour pour Jésus. Il y a plein de choses qu'on sait faire, qu'on peut faire, même sans le Seigneur. Mais il y a une différence entre servir parce qu'on sait le faire, parce qu'il faut le faire, et le faire parce qu'on est porté par l'amour de Jésus. Porté par son amour. Servir en communion avec Jésus dans l'amour du Seigneur. Jésus a dit, demeurez en moi et demeurez dans mon amour. C'est les deux vont ensemble en fait. Quand on demeure en lui, on demeure dans son amour. Demeurez en moi. Et on peut dire, le premier amour, c'est vraiment l'énergie qui donne des ailes. Ça permet de faire toutes choses comme pour le Seigneur et non pour des hommes. On le fait plus. Je me souviens au début, quand je me suis converti, je travaillais professionnellement, mais alors je voulais que vraiment ça soit... Et il me prenait pour un fou, quoi. Hein. Il me prenait pour un fou. Mais ce n'était pas pour le travail. À la rigueur, voilà. Mais c'était pour le Seigneur. On travaille pour le Seigneur. Et on veut que ce soit bien fait parce qu'on est en train de le faire pour le Seigneur. C'est aussi l'énergie qui nous renouvelle sans cesse en Christ. Quand on aime, il n'y a rien qui est difficile. Quand vous avez un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme, il peut faire des kilomètres à vélo. C'est facile. Facile. Hein, peut-être vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais on peut faire des kilomètres à vélo quand on est amoureux. Regardez dans l'Ancien Testament. On lit « Jacob servit cette année pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. » Il a travaillé 7 années pour attendre sa femme. 7 années avant de pouvoir la marier. 7 années. C'est long, 7 ans. Hein? Elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il l'aimait. C'était léger. Est-ce qu'on a encore ce premier amour qui nous porte, qui nous entraîne et tout est léger. C'est léger. On fait les choses avec légèreté parce qu'on aime le Seigneur. Il ne faut pas rester insensible et statique dans la vie chrétienne. Même si on fait des bonnes œuvres et on agit, on fait des choses, c'est bien. Hein? Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Ce n'est pas parce que je sers que tout va bien. Peut-être qu'on a perdu quelque chose. Dieu attend plus qu'un service, mais qui est sans vie en fait, qui est sans l'énergie qui vient du ciel. Les Israélites, dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient, ils sacrifiaient. Et Dieu dit, stop, j'ai en horreur tout ce que vous faites. Il n'y avait plus l'amour pour le Seigneur. Il n'aimait pas le Seigneur. Verset 5, regardez. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit d'abord, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et là, on comprend, mais c'est une chute en fait. On est tombé, c'est une chute. Ce n'est pas un petit détail, non, c'est une chute. Le chrétien d'Éphèse est tombé et il faut qu'il se repente. La repentance, vous le savez, hein, c'est un demi-tour. Hein. C'est un changement dans sa pensée, dans son cœur, hein, dans son comportement, une prise de conscience. J'ai raté là, j'ai raté une porte, je n'ai pas fait ce qu'il fallait ou je ne fais pas ce qu'il faut et je veux changer. Ici, il dit « souviens-toi ». Voilà, « souviens-toi », repars en arrière. Et remémore-toi au début, quand tout était léger et quand tu m'aimais dans la fraîcheur, la spontanéité, dans cet esprit de service. Souviens-toi de tes premiers jours avec moi. Il dit, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, Christ s'adresse à une église, hein. Mais si on veut l'appliquer à un chrétien, j'ôterai ton chandelier de sa place. On peut comprendre qu'on va perdre notre place, notre position, notre influence. Le chandelier, vous savez, c'est quelque chose qui brille. C'est quelque chose qui rayonne. Voilà, on déplace la lumière ici. Et nous sommes des lumières. On est une lumière dans notre famille. On est une lumière dans notre travail. On est une lumière dans notre église. Et voilà, est-ce qu'on va perdre cette lumière? Et c'est vrai, vous savez, quand on n'est pas porté par l'énergie du Seigneur, eh bien, on ne brille plus. On fait les choses, mais il manque ce qui vient de Dieu, en fait. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, dit le Seigneur? Quand vous regardez un jeune chrétien, une des caractéristiques, c'est souvent qu'il est contagieux. Il est contagieux, voilà. Il amène un amour pour le Seigneur chez les autres. Les gens autour se disent, mais mince, ils réfléchissent, ils sont... C'est incroyable. Les jeunes chrétiens sont contagieux. Et puis les années peuvent passer, et la contagion, elle ne s'étend plus. Elle se... Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas finalement ça, hein? L'amour pour le Seigneur qui... Et alors du coup, il n'y a plus cette lumière et il n'y a plus cette contagion. On n'est plus un arbre verdoyant qui apporte la vie à ceux qui nous entourent. Alors est-ce qu'on est un chrétien d'Éphèse? C'est à chacun de le penser pour lui-même. Dieu nous dit, repens-toi. et retrouve ce premier amour. On va avancer. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, qui est ce chrétien de Smyrne? On voit, c'est un chrétien qui souffre pour sa foi. C'est vraiment ce qui ressort. Ici, il n'est pas parlé d'œuvre, il n'est pas parlé de service, mais il est parlé d'affliction, de pauvreté et de souffrance. Et on voit dans le texte que ce n'est pas fini, ça va continuer, c'est vraiment de la persécution. Et le Seigneur dit, je connais ton affliction et ta pauvreté. La première chose, c'est que Dieu n'est pas ignorant quand il voit son enfant qui souffre, son enfant qui est persécuté, son enfant qui reçoit des coups. Dieu est sensible, Dieu le voit, il n'est pas ignorant, il sait parfaitement ce que vivent chacun de ses enfants. Dieu connaît toutes les situations, il n'y a rien qui lui échappe. On apprend aussi l'origine de la persécution, puisqu'il dit en fait clairement, c'est le diable. C'est le diable qui prend et qui jette en prison. Et c'est le diable qui est l'ennemi de nos âmes, et c'est lui qui veut faire souffrir les enfants de Dieu. C'est lui qui veut les amener à être écrasés sous la persécution, sous la souffrance, sous le mépris, sous le rejet. Alors bien sûr, Dieu laisse faire. Hein, si le diable peut agir, c'est que Dieu laisse faire. Mais c'est important de souligner, le texte dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et on voit que c'est délimité. Dieu dit, ça sera ça et pas au-delà. Ça veut dire aussi que Dieu, lorsqu'il permet ce type de souffrance, c'est toujours délimité. Vous souffrirez, vous endurerez de la persécution, mais c'est délimité. Ça sera jusqu'ici et pas au-delà. On ne dépassera pas. Pourquoi ? Parce que Dieu sait exactement ce que chacun peut subir. Il n'éprouve pas au-delà de nos forces et il met une borne au mal. Il l'arrête. Trois choses à retenir pour celui qui est dans cette situation. D'abord, il lui dit « tu es riche ». Le chrétien de Smyrne peut se sentir abandonné, peut se sentir pauvre. Et c'est vrai que dans la persécution, on voit souvent les chrétiens qui partent, qui abandonnent tout parfois, qui laissent la maison, tous les biens. C'est ce qui s'est passé en Syrie. J'imagine il y a des chrétiens, ils ont laissé tout ce qui était derrière eux, ils ont tout abandonné. Ils se sont retrouvés dans la pauvreté. Mais le Seigneur dit, tu es riche. Tu es un enfant du roi des rois. Reviens et regarde les choses qui sont essentielles. Ta richesse, elle n'est pas des choses de cette terre. Ta richesse, elle est en moi. Tu es riche. La vraie richesse, elle est au ciel. Et il faut s'en souvenir quand la pauvreté nous gagne. Ensuite, Dieu dit aux chrétiens de Smyrne, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et on se dit, mais c'est normal de craindre la souffrance. Qui ne craindrait pas la souffrance? Personne n'a envie de souffrir. Mais ces paroles, c'est pour redonner des forces à celui qui va passer par la souffrance. « Ne crains pas la souffrance. » C'est vrai que c'est une pensée qui semble déraisonnable, humainement parlant. Comment ne pas craindre la souffrance? Mais on a l'assurance que lorsque le chrétien passe dans la souffrance, Dieu est avec lui. Et j'aimerais qu'on prenne un texte de Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, et versets 12 à 16. Je vous lis ce texte, 1 Pierre 4, verset 12. Il dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne donc ne souffre en effet comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et il dit au verset 14, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand vous passez par la souffrance, quand vous passez par la persécution, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Dieu n'abandonne jamais son enfant qui souffre pour son nom. Ailleurs, on lit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et devant le mal, on voit à chaque fois Dieu dit, « Ne crains pas, ne craignez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Alors il va dire quand même quelque chose, hein. Il va lui dire « Sois fidèle jusqu'à la mort ». C'est non seulement tu souffres, mais tu peux aussi en perdre la vie. C'est dur, hein. C'est dur. Hein. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Ça c'est le chrétien de Smyrne. Dieu lui dit ça. On est admiratif devant Étienne quand vous lisez le livre des Actes. Vous voyez Étienne qui subit cette persécution. Mais on voit bien aussi qu'Étienne n'est pas seul. Dieu est avec lui. Et il est certain que Dieu accorde son esprit en abondance à celui qui accepte de subir des persécutions pour son nom. Dieu ne le laisse pas dans la souffrance, mais Dieu s'approche de lui et Dieu vient lui donner les forces qui sont nécessaires. Après, on peut aussi noter que Smyrne, ça veut dire myrrhe. La myrrhe, ça, c'était une résine, hein. Voilà, un parfum qui servait à embaumer les morts. Donc voilà, ça nous ramène de nouveau vers la mort. Mais en même temps, le Seigneur commence en disant « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Voilà, il y a la souffrance, il y a la mort, mais le Seigneur dit « Je suis la résurrection et la vie. » Je viens donner la vie. Et donc, c'est une consolation aussi pour le chrétien de Smyrne. Apocalypse 2, versets 12 à 17, hein, troisième lettre. Hein. Il dit, « Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. » qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, qui est le chrétien de Pergame? On voit que c'est d'abord un chrétien qui est là où est le trône de Satan. C'est terrible, hein? Ça veut dire qu'il est au milieu de l'hostilité, il est au milieu de la séduction, au milieu du péché, au milieu d'un monde qui est pécheur. Il y a des tentations, il y a de la mondanité, il y a une pression du diable. Le chrétien de Pergame, il sent cette oppression diabolique et voilà, il y a quelque chose qui se passe tout autour de lui. C'est pas facile de vivre dans un monde qui est complètement corrompu, complètement pécheur, mais il y a des choses positives. Il dit « Tu retiens mon nom ». Tu n'as pas renié ma foi, même sous la pression, tu continues à dire que tu es chrétien. Le chrétien de Pergame, il tient la route à ce niveau-là. Au fond, lui-même, il est attaché au Seigneur, mais, il y a un mais, au verset 14, il dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. » C'est que tu as là des gens attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc là, il fait référence à une histoire qu'on trouve dans le livre des Nombres. Donc, c'est le prophète Balaam qui n'arrivait pas à maudire Israël pour le compte du roi de Moab, Balak. Il n'arrivait pas à le maudire. Alors, du coup, Balaam a conseillé à Balak de pervertir la nation d'Israël. Comment ? Eh bien, par les femmes de Moab, pour qu'elles puissent s'allier avec les Israélites et introduire l'idolâtrie, la débauche et tout le paganisme en Israël. Et le chrétien de Pergame, c'est un chrétien qui se laisse corrompre par le monde. Il glisse dans la débauche. Il se permet des unions illicites, des unions que Dieu désapprouve. Et c'est si tentant, dans un monde qui boit le péché comme un verre d'eau. Voilà, c'est partout, c'est terrible. Dieu est saint et il veut que son peuple soit saint. Et on vit au milieu d'un monde qui est corrompu. Et la corruption, elle déteint sur le chrétien de Pergame. Elle déteint sur lui. Verset 15, il ajoute, « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Alors, on a déjà parlé des Nicolaïtes avec l'église d'Éphèse. Ce n'était pas la doctrine des Nicolaïtes, c'était les œuvres des Nicolaïtes. Mais c'est pareil. Et les Nicolaïtes, alors il y a diverses interprétations. Certains veulent le relier à Nicolas, l'un des premiers diacres dans le livre des Actes. Les pères de l'église en parlent. Mais ici, il le lie à Balaam. Et donc, je vais retenir cette interprétation plutôt que les Nicolaïtes, en fait, ou cette doctrine des Nicolaïtes, elle était liberticide. Elle était immorale. Ils encourageaient à la liberté, à faire des actes immoraux, à se laisser aller, à faire comme les païens. C'est pas grave, on fait comme les païens. Et on voit que le chrétien de Pergame, c'est le chrétien qui se laisse séduire, il se laisse détourner par ce monde qui est inspiré par Satan. Il ne fait plus trop la différence, sainteté, débauche. Si le monde le fait, pourquoi pas moi ? Vous savez, des fois, ça sort. Si le monde le fait, pourquoi pas moi ? Mais il ne faut pas oublier que ce monde est mauvais, que le prince de ce monde, c'est le diable. Qui veut détruire, qui veut souiller, qui veut descendre, qui inspire et domine la pensée du monde. C'est pour cela que le Seigneur a dit, et vous connaissez ce verset, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce n'est pas possible, c'est deux directions. Si le monde le fait, je ne devrais pas dire « Pourquoi pas moi ?» Mais si le monde le fait, est-ce que je dois le faire ? Est-ce que c'est bien que je le fasse ? Parce que si le monde le fait, il faut se poser des questions. Versets 16 et 17. Il dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. » D'abord, repens-toi donc. Il a déjà dit aux chrétiens d'Éphèse, il le répète ici pour celui de Pergame. Et vous savez quand le Seigneur vous parle. Vous savez quand il vous dit quelque chose. On le sait, immédiatement. Ok, on le sait. Le Seigneur, quand il met son doigt sur quelque chose, il ne faut pas simplement être touché et puis laisser passer. Et puis on ne fait rien, on laisse passer. J'ai vu une image humoristique que j'aimerais vous montrer. C'est un orateur qui pose la question. Il dit « Qui veut que ça change ?»« Qui veut que ça change ?» Mais tout le monde veut que ça change. On veut tous que ça change, non ? Et le changement, on est tous d'accord pour ça. On pense que l'Église, elle devrait être plus réveillée. L'Église, elle devrait être plus sainte. On devrait vivre plus intensément la vie chrétienne, dans un vrai amour pour Jésus. Tout le monde dit « Amen ». Mais vient une deuxième question, qui veut changer? Et là, il manque la réponse. Il y a peu de gens qui répondent à l'appel. Pourquoi? Parce que on ne répond pas aux appels du Seigneur par un changement. On veut changer et on change. Il y a une prise de décision en fait. Une décision, une prise de position, une décision, la repentance. On se repent. Je veux changer, vraiment changer. Seigneur, mais quelque chose, voilà, il met son doigt sur notre cœur, il dit ça va pas ça. Ah oui, 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 ça va pas, ça va pas. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ça va pas, je vais changer, Seigneur. Je veux que ça change. Je vais changer. Pas simplement, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, t'as tout à fait raison, Seigneur. C'est vrai. Non. Pardon, Seigneur. Je veux plus ça dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Libère-moi. Change-moi. Délivre-moi. Change-moi. Aujourd'hui. Il dit que celui, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et vous savez, le gagnant dans les Écritures, ce n'est pas celui qui bombe le torse et qui est... Voilà. Ce n'est pas celui-là. Hein. Le gagnant dans les Écritures, c'est celui qui se met à genoux et qui se repent, et qui pleure, et qui change, et qui change, et qui change, et qui se repent, et qui change encore. Ça, c'est le gagnant. Il est le gagnant des Écritures. C'est celui-là qui va recevoir un caillou blanc. Et le caillou blanc, peut-être que le Seigneur faisait référence à une pratique qui avait lieu en Israël, c'est que les juges avaient coutume de donner une pierre blanche en signe d'innocence à quelqu'un qui normalement allait être jugé pour l'absoudre en fait. Marquer le nom sur le caillou blanc et y donner, voilà, absous. Le Seigneur nous a pardonnés. Pardonner nos péchés. Mais c'est au prix de la repentance et de la foi en Jésus mort pour nous. Et la repentance, c'est normalement ce qui caractérise un chrétien. Hein? Vous savez, dans le monde, on dit, oh, quand on dit quelque chose, hein, je m'excuse. Le chrétien, il se repent. Lui, il demande pardon. Il demande pardon. Il se repent et il se repent devant Dieu. Et la repentance, elle commence le jour de la conversion. Et puis après, elle ne cesse pas en fait. Hein. On est sans cesse en train de se repentir. Parce que sans cesse, le Seigneur eh bien, nous montre des choses. Et là, il faut progresser ici, et là. Et le Seigneur juge nos pensées voilà, par sa parole vivante, pénétrante. Qu'on puisse peut-être se repentir ce matin. Repens-toi. Repens-toi. Si le Seigneur vous a dit quelque chose, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Sincèrement. Dans les 7 lettres, 5 fois, le Seigneur utilise la repentance. Il dit « repens-toi ». Ça fait beaucoup, hein ? On va dire sur 7 églises, sur 7 chrétiens, il y en a 5 qui doivent vraiment se repentir. Il y en a un qui... voilà, le Seigneur ne lui dit pas cela. Et il y en a un qui est dans la souffrance, où Dieu le console. Alors peut-être on fait partie des 5 hein, ce matin, qu'on puisse demander pardon au Seigneur. On va avoir un moment de silence, simplement de silence. Hein, et si vous voulez demander pardon au Seigneur, ben faites-le, mais silencieusement. Vous n'avez pas besoin d'exposer vos cœurs devant Dieu, mais Dieu voit si vous lui parlerez ou si vous resterez silencieux. Seigneur, merci de ce que tu es notre Père, notre Dieu, celui qui nous a aimés et nous aime, et de ce que tu veux que nous marchions avec toi, avec des cœurs toujours repentants et sensibles à ton esprit, à ta voix, pour faire ce que tu nous demandes et progresser. Seigneur, aide-nous à vivre de ton amour et dans ton amour. Aide-nous à retrouver si nous avons perdu ce premier amour. Aide-nous à vivre dans la fraîcheur d'un cœur qui est spontané, qui vit pour toi de toute son âme. Seigneur, bénis-nous chacun, chacun ici de tes enfants. Et Seigneur, tu sais où nous en sommes. Tu sais ce que chacun a prié ce matin. Seigneur, exauce ces prières. Bénis tes enfants. Change-nous, transforme-nous, sanctifie-nous. Seigneur, et que la sainteté puisse nous caractériser, la fidélité et l'amour pour ta personne. Seigneur, vois les cœurs de bonne volonté ce matin et réponds à leurs prières. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Amen.